Depuis qu'on s'est parlé, beaucoup d'actualités concernant Desjardins, le vol d'identité, tout près de 3 millions de personnes au Québec, puis principalement au Québec, de toucher. On sait que maintenant, les ratés avec Equifax, notamment les difficultés d'accès, semblent... On a trouvé une solution parallèle, notamment avec un service téléphonique dans le mouvement Desjardins. Alors, pour parler de tout cela, puis il y a la scène politique aussi qui commence à se mêler du dossier. Pour parler de tout cela, c'est avec plaisir que je l'accueille à nouveau. Il est vice-président en communication d'entreprise chez Desjardins. Marc Briand-Chamberlain est avec moi. Monsieur Chamberlain, bonjour.
Bonjour, Monsieur Chalette.
Bon, merci d'être là. Vous êtes avec moi pour une deuxième fois pour un peu répondre aux interrogations des millions de Québécois qui ont vu leur identité volée. Dites-moi, on s'est parlé la dernière fois concernant les difficultés avec Equifax. Vous aviez promis certains gestes. Ça, c'est fait. On peut maintenant s'inscrire chez Equifax à travers un numéro 1-800-CAISSE. Parlez-moi de ça un peu.
Oui, c'est exact. Peut-être juste préciser que c'est pas 3 millions de Québécois qui ont eu un vol d'identité, mais c'est dans le fond des gens dont l'information a pu émettre.
Vous avez raison.
Juste pour rassurer les gens.
Vous avez raison. Je m'excuse, c'est mon lapsus. Vous avez totalement raison.
Il n'y a pas de problème. Vous le mentionnez, oui, effectivement, on a mis en place là, différentes solutions, puis il va y en avoir d'autres cette semaine. Alors, la solution privilégiée pour s'inscrire, c'est toujours d'aller sur le site d'Equifax, parce que vous avez une inscription qui est presque immédiate, je vous dirais en 2 ou 3 minutes. Mais si quelqu'un a de la difficulté, il peut toujours nous contacter une fois qu'il a reçu sa lettre. Ça, c'est bien important parce que ça prend un code d'activation. Et là, nos gens au 1-800-CAISSE vont prendre l'information, vont la transmettre à Equifax et les gens, dans le fond, qui nous contactent par téléphone comme ça, sont protégés et assurés du moment où ils complètent l'appel avec nous.
OK, parce que dans le fond, quand on appelle chez Desjardins, vous colligez l'information, mais vous vous tournez de bord puis vous communiquez avec Equifax?
Exactement. La piste ultime, on n'a pas le choix, là. C'est, on atterrit chez Equifax un jour ou l'autre. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des portes d'entrée parce que il y avait beaucoup de gens qui passaient par une très petite porte. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert nos propres portes d'entrée à nous. Mais, ultimement, on se doit de retourner le tout à Equifax. Et c'est pour ça qu'on assure et on protège les gens dès qu'ils ont complété l'appel avec nous, le temps qu'Equifax termine les opérations de son côté.
Je comprends. Très bien. Expliquez-nous maintenant, lorsqu'on vous appelle, si c'est la décision du membre, parce qu'il n'y a pas Internet, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, parce qu'il trouve ça compliqué, peu importe. Bon, vous offrez le service. Disons quelqu'un vous appelle, puis ce serait les mêmes questions par rapport à Equifax. Dites-moi, quelles sont les informations que j'ai besoin de vous donner?
Bon, on va poser en fond des questions qu'on appelle d'authentification. Donc, on va vouloir s'assurer qu'on a la bonne personne au bout du fil. Alors, ça va être les mêmes solutions que les gens sont habitués d'avoir lorsqu'ils appellent chez Desjardins, parce qu'on a beaucoup d'informations sur nos membres, on est capable de les authentifier. Et donc, ça va être les informations de base pour être capable de s'authentifier avec les questions secrètes que vous avez. Et de cette façon-là, on va être capable de démontrer à Equifax que oui, c'est bien la bonne personne qui a donné son consentement à recevoir les alertes d'Equifax.
OK, mais on va vous donner, vous allez me demander mon nom, mon adresse, le nom de fille de ma mère, c'est des choses comme ça, plus mon numéro, le code que j'ai reçu par la poste.
Le code que j'ai reçu par la poste, on va vous poser certaines questions. Les questions peuvent être différentes pour chaque personne. Mais donc, c'est les questions que vous avez convenues, dans le fond, avec Desjardins et pour lesquelles, là, il y a une entente pour pouvoir vous authentifier avec nous.
OK. Je me suis inscrit en ligne. Et là, ce que j'en ai compris, c'est qu'Equifax me donne un nom d'utilisateur et ça me prend un mot de passe. Est-ce que vous allez faire ça avec les membres? Vous allez donner ça au téléphone?
Les gens, dans le fond, vont, comme je vous disais, c'est que en bout de piste, il faut toujours finir le processus chez Equifax. Donc, ça, on n'a pas le choix. Alors, les gens qui vont s'inscrire via téléphone avec nous vont recevoir une confirmation par courriel d'Equifax dans laquelle ils auront la confirmation, ils auront un mot de passe temporaire et une fois qu'ils ont ça, ils devront modifier le mot de passe temporaire pour se doter de leur propre mot de passe. Alors, nous, on ne pourra pas donner le mot de passe à la personne, mais on va s'assurer de tout rentrer l'information pour qu'Equifax puisse retourner la confirmation et la procédure pour pouvoir changer le mot de passe.
Par courriel?
Exactement.
OK. Moi, ma mère n'a pas d'ordinateur. Elle n'a pas de courriel. On fait quoi?
On y travaille. Ça, je peux être sûr, on y travaille. Alors, on a des discussions en ce moment avec Equifax pour trouver une solution pour les gens qui n'ont pas accès à Internet. Il y a quand même des gens, effectivement, dans cette situation-là au Québec. Et donc, on a très bon espoir là, de revenir avec une solution d'ici les prochains jours.
La fameuse lettre. Depuis qu'on s'est parlé, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Dites-moi, il y a combien de monde au Québec qui ont reçu la lettre qui doivent la recevoir, en pourcentage, là?
Ben, on parle de, si on parle de clients particuliers, donc des personnes, ils n'ont pas des entreprises, c'est 2,7 millions de lettres qui seront expédiées, là, où on prévoit terminer l'expédition là, vers la mi-juillet.
Non, aujourd'hui, il y en a combien de pourcentage? En pourcentage, c'est le 2,7 millions?
On était rendu, là, en date d'hier, je pense qu'on était à tout près de 70 ou dépassé 70 %, là, donc on a plus des deux tiers de fait.
Comment vous décidez, l'ordre de, pour envoyer les lettres, c'est, est-ce que c'est par ordre alphabétique?
Oh, j'ai pas le, honnêtement, j'ai pas le détail là-dessus de quelle façon ça part. C'est des lots qui partent dans le fond avec le fournisseur Post Canada. Et il y a un lot à chaque jour qui part. Faut appareiller dans le fond les codes Equifax avec les lettres, s'assurer de croiser les bases de données. Et ça part en lot avec Post Canada. Mais honnêtement, je ne croirais pas que c'est un ordre alphabétique, là, mais je pourrais pas vous le préciser.
Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un l'a poursu? Pour le 30% qui ne l'ont pas encore, qui doivent être bien inquiets parce qu'ils n'ont pas leur code, ils sont pas capables de savoir si quelqu'un joue dans leur compte. Comment vous faites? Comment vous avez décidé qui est en premier, qui sera en dernier?
Alors, comme je vous dis, je pourrais vous trouver l'information pour une prochaine conversation avec plaisir, mais j'ai pas le processus, là, qu'est-ce qui fait que quelle lettre est envoyée en premier. Est-ce qu'il y a des critères dans la liste? Là, honnêtement, je ne sais pas, mais je pourrais vous revenir avec ça.
OK. Au niveau du 1-800-CAISSE, si on appelle, est-ce que vous avez établi des normes de service que vous trouvez acceptables?
Normes de service, donc vous voulez dire de temps d'attente?
Mais premièrement, est-ce que vous enregistrez la conversation?
Tout à fait. Je vous le disais tantôt, il y a une question de consentement qui est hyper importante là-dedans. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'inscription pour le membre à sa place. Et donc, au téléphone, on a des appels avec des suivis enregistrés et le consentement verbal, donc, est enregistré pour chacune des transactions.
OK. Est-ce que vous allez utiliser l'enregistrement pour le contrôle de qualité?
Oui, bien, écoutez, c'est des procédures que l'on fait fréquemment.
OK.
Oui, il y a des suivis qui sont faits.
OK. En termes de délai d'attente avant que quelqu'un prenne l'appel, vous avez établi votre norme à quoi?
Bien, ce qu'on a fait, en fond, c'est qu'on a augmenté de beaucoup la capacité de nos centres téléphoniques. On est allé chercher des gens à l'interne qui travaillaient dans d'autres centres d'appel, par exemple en ressources humaines ou autres, et on leur a demandé de se joindre à la force du centre d'appel. On n'a pas déterminé un délai. On le disait vendredi lorsqu'on a lancé la solution. C'est sûr qu'on prend un risque parce que, dans le fond, les gens qui n'arrivaient pas à contacter Equifax vont se retourner vers nous. Donc, c'est sûr qu'on a un risque. Ce qu'on a constaté hier, ça a été une journée plus que record là, dans nos centres d'appel. Le délai moyen là, en début de journée était de 10 minutes d'attente et à partir de 14 heures, c'était en quelques secondes.
Parfait. 10 minutes, c'est acceptable chez vous?
Ben, je vous dirais qu'en temps normal, lorsqu'on donne du service à la clientèle chez Desjardins, on est bien en bas de ça. Maintenant, c'était un risque, encore une fois, qu'on était prêt à prendre semaine parce qu'on voulait répondre aux mêmes clients.
Okay.
Et ça, entre les 10 minutes chez nous ou ce qu'on a pu entendre parfois certaines personnes qui évoquaient des heures au téléphone avec Equifax, ben, on pense que c'était un pari là, qu'il fallait prendre.
Je comprends. Ben, 10 minutes, c'est bien raisonnable, soit dit en passant. Là, considérant la situation, M. Chamberlain, honnêtement, le chapeau à Desjardins, si vous êtes capable de diminuer ça à 10 minutes, c'est incroyable. Monsieur Chamberlain, dites-moi, on a un gros débat présentement où il y a un débat sur oui ou non, est-ce qu'on devrait changer les numéros d'assurance sociale pour tous ceux là, qui se sont vu l'information divulguée. Vous avez une genre de position chez Desjardins? Vous êtes pas tout à fait d'accord avec ça? Est-ce que je me trompe?
Non, mais le numéro d'assurance sociale, ça fait partie des choses qu'on a regardées dès le début. On est en contact et on l'est toujours là, avec les autorités fédérales. C'est une des pistes qu'on a regardées avec eux. Les discussions se poursuivent. Ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est que c'était quelque chose qui était compliqué, qui était rare à faire. Mais la discussion se poursuit. Et la discussion plus large aussi qu'on commence à entendre dans la société, mais qui est la discussion de fond, c'est de quelle façon on devrait faire l'authentification des gens dans notre pays. On sait qu'il y a des formules qui sont de citoyenneté numérique qu'on appelle, qu'on voit souvent en Europe, par exemple, qui offre une sécurité accrue versus un numéro unique comme la carte d'assurance sociale. Alors, est-ce que le Canada devrait aller vers là? Ben ça, c'est une réflexion, je dirais, de société et d'industrie à laquelle on veut participer.
Plus large, oui, c'est ça. Je veux juste revenir sur le numéro d'assurance sociale parce que tout ce débat-là me posait... En fait, j'arrivais à certaines questions. Chez vous, là, quelqu'un qui arrive, il y a un compte, puis qui veut, à un moment donné, vous demandez le numéro d'assurance sociale. Vous, Desjardins, là, oublions le contexte, là, puis le problème qui existe. Vous, Desjardins, vous utilisez le numéro d'assurance sociale comment et pourquoi?
Bien, il est très, très simple. Une rémunération sociale, il est nécessaire lorsque, par exemple, il y a une incidence fiscale sur une transaction. Vous avez un régime d'épargne retraite, vous avez un régime d'épargne d'accès à la propriété. Donc, tous ces produits-là qui ont un rapport avec votre rapport d'impôt, ça prend le numéro d'assurance sociale. Sinon, vous n'avez pas à le fournir, c'est pas une obligation.
OK. J'ouvre un compte chez vous, j'ai pas besoin de l'offrir.
Non, c'est si, par exemple, vous prenez un produit avec, encore une fois, là, un impact fiscal, c'est dans ce cas-là.
Si je tente d'avoir, je veux contracter un emprunt, une hypothèque, une marge, un prêt personnel, un prêt voiture, est-ce que vous me le demandez?
Écoutez, j'ai pas tous les cas de figure précis. Quand vous me parlez d'hypothèque, c'est sûr qu'encore une fois, s'il y a un régime d'accès à la propriété, un RAP, comme
oui,
on dit souvent,
oui, bien sûr.
Dans un cas comme ça, oui. Dans les autres cas, ma compréhension est que non, mais on peut regarder des cas de figure si vous souhaitez pour les préciser là, dans une prochaine conversation.
OK. Là, il y a deux organismes qui se mettent ensemble pour vous enquêter, c'est ce que je comprends, la Commission d'accès à l'information du Québec et le Commissariat à la protection de la vie privée au Canada. L'objectif, c'est de voir si Desjardins a respecté la loi sur la protection de la vie privée. Êtes-vous inquiet?
On n'est pas inquiet. Écoutez, c'est des organismes qui doivent faire le suivi des lois et des règlements en vigueur. Même principe pour l'autorité des marchés financiers. Dès le jour 1 de l'événement, là, on a contacté ces organismes-là pour s'assurer de les informer et on est en contact avec eux depuis le début. Alors, pour nous, c'est clair, on va collaborer à l'enquête et c'est pas anormal qu'il y ait une enquête dans un cas de fuite comme celle qu'on a connue. Là. Alors, on n'est pas surpris, on va collaborer.
OK. Politiquement, il y a des acteurs qui se mêlent du dossier présent. La CAQ dit « Vous faites une bonne job ». Le PQ veut une enquête publique. Andrew Scheer veut un comité spécial cet été sur la sécurité publique au Canada. Votre réaction par rapport aux réactions politiques?
Ben, c'est sûr, vous comprendrez. Moi, je ne ferai pas de politique. Hein. On va laisser ça aux politiciens, aux partis politiques en place. Ce qui est clair dans notre cas, c'est qu'on collabore avec le gouvernement là, depuis le tout début à nouveau. On les a tenus informés de ce qui se passait, de la situation. À chaque fois qu'on a des mesures qu'on met en place, on les informe aussi. Pour nous, c'est très important. La collaboration, elle est là et elle va se poursuivre.
OK. Peut-être un dernier sujet. Je vous laisse aller. Vous êtes très occupé aujourd'hui. On voit qu'il y a pas mal de gens, ou il y a des gens qui reçoivent des messages frauduleux par texto, par courriel, se faisant passer pour Desjardins qui disent, les messages disent essentiellement votre compte en ligne accédé a été suspendu, etc., etc. Juste rassurer les gens, là. M. Chamberlain, est-ce que Desjardins communique soit texto ou par courriel avec les membres?
La précision est très importante. Desjardins ne va jamais communiquer par texto avec un membre, à moins que celui-ci l'ait demandé. Et si c'est le cas, c'est dans des situations très précises. Par exemple, vous faites un renouvellement hypothécaire en ligne, ben il va y avoir un texto qui va être envoyé. Mais jamais dans les textos, vous devrez fournir d'informations personnelles. Et lorsque quelqu'un a un doute sur un texto qui provient d'une institution, que ce soit Desjardins ou une autre, la meilleure chose, c'est de ne pas y répondre, prendre le téléphone, appeler au numéro officiel, et comme ça, on peut s'assurer là, de ne pas se faire prendre dans un stratagème comme celui-là.
Très important, cette précision-là. Très important. Très bien. Merci beaucoup, M. Chamberlain. Merci d'avoir participé à l'émission. OK, à la prochaine.
À la prochaine, okay, au revoir.
Bye-bye. Alors, Marc Briand-Chamberlain, il est vice-président aux communications d'entreprise chez Desjardins.